Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous pour une nouvelle pastille. Un jour une pastille, un jour une preview un jour, dites-le comme vous voulez. Vous en avez l'habitude, on continue la présentation de la NFL version 2023 et aujourd'hui, les Tampa Bay Buccaneers dans cette NFC Sud. Et pour parler des Tampa Bay Buccaneers, Victor Rouillet est avec nous.
Et bonjour Lucas, bonjour à tous.
Grégory Richard, comme hier et comme demain, est avec nous.
Bonjour messieurs et bonjour tout le monde.
On va parler des Buccaneers, messieurs. 8-9 l'année dernière, une équipe qui est allée en playoff avec Todd Bowles et puis surtout avec Tom Brady. Ils ont gagné la NFC Sud, c'est dire. On parlait hier des Falcons, on parle des Buccaneers aujourd'hui. On va parler rapidement de ce qui s'est passé, des mouvements, notamment du côté des Buccaneers, parce qu'il y en a eu un gros, je l'ai dit, Tom Brady, est parti pour de bon cette fois-ci, la retraite pour de bon pour lui. Baker Mayfield est arrivé, Chase Edmonds aussi, Matt Feiler sur la ligne offensive est arrivé, Greg Gaines, Anthony Nelson, Ryan Neal sont arrivés défensivement. On a gardé Jamel Dean, le cornerback, Lavonte David aussi a été prolongé, et puis du côté des départs, il y a eu pas mal de départs, Tom Brady, Julio Jones, Breshad Perryman, Cameron Brait, Leonard Fournette, Giovanni Bernard, Sean Murphy Bunting, Hakeem Hicks, Mike Edwards, Carl Nassib, Blaine Gabbert. Voilà, beaucoup de noms qui sont partis. Et pourtant, dans cette équipe, il y a encore beaucoup de joueurs qui étaient là la saison passée. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui étaient là en 2020 lors du titre. Est-ce que, messieurs, Victor, est-ce qu'on est sur une année de transition, de reconstruction du côté des Buccaneers ou pas tant que ça? Parce qu'on a tendance à le dire vu que Tom Brady est parti. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas tant une année de reconstruction que ça?
Je dirais que s'ils n'étaient pas dans une division aussi faible, entre guillemets, encore une fois, théoriquement, avant le début de la saison, on pourrait parler de totale reconstruction. Après, la réalité est que, oui, on va en parler, ils ont des points forts qui fait qu'ils peuvent peut-être rêver à mieux. Le vrai problème, c'est que tu peux pas, enfin, tu es obligé de parler de reconstruction quand tu dois, par définition, trouver une solution au poste de quarterback. Ça reste quand même la base de ton jeu. Donc oui, je dirais une reconstruction, mais une reconstruction qui ne voudra pas forcément dire une ribambelle de défaite.
Grégory, est-ce qu'on peut s'entendre sur le terme transition, peut-être plus que reconstruction? Parce que j'insiste, mais c'est vrai que certes, il n'y a plus de quarterback, mais en même temps, quand on parle de reconstruction, on imagine peut-être qu'on va dégager, si je peux me permettre l'expression, beaucoup de joueurs. On a par exemple gardé Lavonte David, qui est un très bon joueur, mais on l'a gardé, on n'a pas fait un grand ménage du côté des Buccaneers.
Non, pour rejoindre un peu ce que disait Victor, en fait, qui va être très particulier avec cette équipe-là, je ne suis pas sûr que ce soit autant marqué dans d'autres équipes, mais je pense qu'on va avoir des points très forts et des points très faibles. Donc, c'est un peu ce qui va être compliqué à analyser pour se dire que cette équipe vaut un peu plus que d'autres. C'est-à-dire qu'en effet, là, il y a quand même il n'y a pas une reconstruction complète pour rejoindre ce qui a été dit. Mais il y a quand même des mini-chantiers assez conséquents qui vont forcément nécessiter du temps et qui, du coup, vont peut-être forcément impacter Tampa par rapport à d'autres formations.
Avant de parler des chantiers, on va parler des points très forts. Je ne pense pas me tromper si je me dirige vers la défense dans cette catégorie-là. L'année dernière, elle était 13e au nombre de points encaissés. Et je l'ai dit, on a gardé beaucoup de joueurs de cette défense-là. Lavonte David est resté, Jamel Dean aussi, Antoine Winfield Jr. est toujours là, Vita Vea aussi, Shaq Barrett devrait revenir aussi, il a été prolongé. Victor, la défense, c'est vraiment le point fort de cette équipe. Ça l'était l'année dernière, ça devrait le rester.
Oui, ça l'était encore plus il y a 2 ans. L'année dernière, ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Mais évidemment, sur le papier, bah déjà, ton duo de linebacker, c'est Avante David et Devin White. Je veux appeler Dion, mais c'est l'autre. Et t'as quand même Vita Vea qui est un monstre sur la ligne, Joe Tryon et Shaquille Barrett en edge rusher, Kay Jacansi, le premier tour, qui va être un bon complément, je pense, de Vita Vea. Et même si tu vas sur le dernier rideau, t'as Antoine Whitfield, t'as Dean, t'as Neil. Enfin, globalement, tu regardes cette défense et tu dis, bah, cette défense, elle a juste la gueule d'une défense top 10, quoi. Sauf avalanche de blessures. Mais finalement, tu parlais des départs, mais ils ont perdu quoi? Ils ont perdu surtout des remplaçants défensivement. Donc, à part une certaine lassitude qui ferait que ce groupe sous-performe, je ne vois pas comment on peut enlever cette équipe de la conversation pour être une top 10 défense, voire mieux.
Je ne sais pas. Comment dire ça? Je vais pas vous dire que la défense de Tampa est pas bonne, ce serait totalement stupide de ma part. En effet, ce sera une équipe qui en tout cas va avoir un des tout meilleurs front seven du pays. J'ai presque envie de dire vaut mieux, parce que mine de rien, et ça on l'a dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas été épargnés par les blessures, c'est encore plus vrai à mon sens en 2021 qu'en 2022. Mais c'est quand même une équipe qui concède beaucoup, beaucoup de touchdowns dans le domaine aérien, et ça peut être problématique. Certes, ils sont dans une division qui est relativement qui est moins exposé dans ce registre-là, encore que il y a un premier choix de draft du côté de Carolina qui arrive, et il y a un Derek Carr qui vient du côté de New Orleans et qui devrait un petit peu rebooster ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans une politique, là encore, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, du « ça passe ou ça casse ». C'est-à-dire que ça peut marcher sur n'importe quel… ça peut écraser n'importe quelle poche adverse, et c'était une des équipes encore avec un grand nombre de sacs la saison dernière, et ça devrait le rester avec toutes les menaces qu'a cité Victor. Mais encore une fois, il vaut mieux parce que malheureusement, il y a cette petite forme d'inconstance, des petits pépins physiques, encore une fois, qui reviennent assez souvent, coucou Carlton Davis. Donc voilà, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte, mais qui ne sont pas à occulter, à mon sens, pour permettre à Tampa d'être régulier sur l'ensemble d'une campagne.
On parlait de pass rush et notamment de ligne défensive aussi. Il y a eu la draft de Kali Jacansi aussi sur ces postes-là, qui peut venir faire du bien, un joueur qui pourrait prétendre à la place de titulaire d'entrée. Messieurs, est-ce que quand on parle de points forts, on peut parler aussi de quelques playmakers offensifs, et surtout un playmaker, parce que certes, il n'y a peut-être pas aussi autant de talent en attaque, mais Mike Evans, c'est quand même l'un des meilleurs receveurs de la ligue. Et même si le quarterback, on va en parler plus tard, peut-être sera moyen, avec un joueur comme ça, on peut espérer de grandes choses.
Bah, globalement, tu as deux excellents receveurs, parce que bon, y a évidemment Evans, mais il y a Chris Godwin. Le problème, c'est qu'en attaque, je vais être un peu cash directement, mais il n'y a que ça qui me rassure. La ligne, qui était quand même une force historiquement... Alors, il y a Tristan Wirfs, qui est un excellent left tackle. Mais après, il y a quoi autour? Ryan Jensen, il revient de blessure, on ne sait pas dans quel état il va être. Et derrière, c'est des failures, des Moke et des Godeki. C'est des joueurs corrects, mais enfin, c'est quand même pas aujourd'hui ultra rassurant. Donc finalement, moi, le poste de tight end me rassure pas, la ligne me rassure pas, running back ça me rassure pas, quarterback ça me rassure pas. Bah oui, il y a des receveurs, mais il y a un peu que ça.
Oui, parce que on parlait des points forts. Il y a les receveurs. En effet, il y en a deux. Pour parler des points faibles, on va se diriger vers l'attaque. Grégory, rien ne rassure Victor. En effet, c'est pas très rassurant. Si tu devais sortir peut-être le groupe qui t'inquiète le plus. Pour ma part, c'est les running backs, hein, parce que l'année dernière, le jeu au sol a été très compliqué. Et alors, on va parler de jeu au sol plus que de running back. Et on a Fournette est parti. On essaye de faire confiance à White, mais c'est inquiétant.
Ben c'est ça, tu as peut-être pratiquement tout dit, mais en soi, moi, j'ai rien contre le fait. En effet, on ne peut pas avoir un Tom Brady tous les ans. À un moment donné, il faut bien qu'il arrête. Et certes, voilà, il y a peut-être un peu moins de joueurs stars qui sont motivés à rejoindre Tampa maintenant que Brady n'est plus là. J'ai rien contre Baker Mayfield ou encore Caltrace, mais déjà, c'est mauvais signe qu'aujourd'hui, on ne sache toujours pas, à l'heure où on enregistre l'émission en tout cas, qui sera le quarterback numéro 1. Ça en dit long actuellement sur le fait que Baker Mayfield soit arrivé en tapant du poing sur la table du côté de la Floride. Mais c'est vrai que ce qui est problématique, et tu le disais, c'est que le jeu au sol était déjà très mauvais l'année dernière, ce qui arrivait à compenser Brady et le jeu aérien. Là, si on a un quarterback qui est un peu plus en délicatesse cette année, s'il n'y a aucun jeu au sol pour pouvoir l'épauler de nouveau, Bah, je ne suis pas sûr que le résultat soit aussi concluant que l'année dernière, une année où ils font quand même 8 victoires, 9 défaites et où ils se qualifient en play-off uniquement grâce à la faiblesse de la division. Donc, malheureusement, je te rejoins totalement. Oui, ce backfield offensif, pour moi, est peut-être sur le papier, j'entends bien, un des pires du pays.
Je vais essayer de peut-être de me faire l'avocat du diable. Victor, avec l'arrivée de Dave Canales, le nouveau coordinateur offensif, qui devrait changer de système et notamment de système sur les jeux de course, est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut donner un petit espoir? On est toujours aussi inquiet.
Moi, enfin, quand je vois Rachaad White ou Chase Edmonds, je veux dire, encore une fois, pardon, hein, mais dans une équipe qui a une grosse ligne, ça suffit. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que la performance d'un running back, c'est 80% la performance de la ligne. Et c'est toujours pareil. Il va falloir, pour que cette attaque fonctionne, il va falloir une ligne au niveau. Sur des running backs, oui, on pourrait avoir mieux, mais en soi, Rachaad White, il a quand même montré des petits signes sympathiques l'année dernière. Donc autant lui laisser sa chance, c'est pas comme si de toute façon ils avaient 1 million d'autres opportunités.
Messieurs, où est-ce qu'on met Todd Bowles dans cette histoire? On n'en a pas parlé. Le coach de cette équipe qui fait sa deuxième saison du côté de Tampa Bay, on l'a dit, ça n'a pas été forcément très rassurant l'année dernière. Il y a beaucoup de monde dans le staff qui ont changé. C'est pas toujours un point fort pour un coach, hein. Quand il y a beaucoup de monde dans le staff qui change, c'est un peu un point inquiétant. Est-ce qu'il est sur la sellette? Et puis surtout, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met dans les points forts, les points faibles, les facteurs X, puisque c'est l'exercice ici?
Moi,
Et vas-y, vas-y.
pardon, mais pour moi, l'année dernière, ils sont allés en playoff malgré Todd Bowles, en fait. Donc, il va falloir que clairement, en fait, on avait un coordinateur offensif qui était plutôt, on va dire, aimé, etc., du vestiaire. On vire tout le monde en disant que c'était le problème. Bon, là, d'accord, tu as mis tes mecs aux commandes, mais il faut qu'il y ait résultat derrière. Et je suis Todd Bowles, quand même, on l'a vu maintenant un petit peu quand même en tant que coach principal. Autant c'est un excellent coordinateur, aucun problème avec ça. Autant en coach principal, ça a toujours été difficile. Et je dois avouer que moi, c'est le truc qui me rassure pas du tout sur cette équipe. C'est Todd Bowles. Donc je dirais que oui, c'est un facteur X par nature, mais d'instinct, j'ai envie de mettre en faiblesse.
Grégory, pour toi, Todd Bowles, c'est pas l'homme idoine. Est-ce que ça fait partie de ces coachs qui n'arrivent pas à passer le cap entre les coordinateurs offensifs très bons et les coachs principaux moyens?
C'est ça, et puis à mon sens, il est un peu dans la même situation qu'un Dennis Allen à New Orleans, par exemple. C'est-à-dire qu'il arrive dans les chaussons d'un ancien coach avec notamment une attaque très identifiée, et on se rend compte que bah, cette attaque, alors on parlait du jeu aérien notamment et des receveurs à plus de milliards l'année dernière, mais c'est vrai qu'on voit malgré tout que le secteur offensif, je vais y arriver, a quand même un petit peu régressé. Là, on a tiré les conclusions parce que du coup, Byron Leftwich, l'ancien coordinateur, est parti. On a Dave Canales, notamment, qui a encadré pendant de nombreuses années Russell Wilson à Seattle, qui arrive pour sa première expérience de coordinateur offensif. À mon sens, pour répondre à ta question, alors, j'aurais du mal à aller jusqu'à point fait parce qu'en effet, malheureusement, l'échantillon n'est pas totalement satisfaisant, notamment de ce qu'on a vu chez les Jets. Et là, pour l'instant, c'est pas foufou non plus. Mais clairement, il est sur une saison all-in où si ça fonctionne pas mieux, encore une fois, dans cette division qui reste relativement prenable malgré tout, bah, c'est pas impossible en effet que les dirigeants se décident à changer de head coach.
Messieurs, le facteur X, je vais me lancer, je vais commencer, je vais récupérer la toque de Grégory qu'il avait hier, parce que ça sera la tarte à la crème pour moi aujourd'hui. Je suis désolé, je m'excuse auprès d'Alain Mattei qui nous interdit de mettre des quarterbacks, mais je vais mettre un quarterback, les quarterbacks, parce que bah, pour le coup, dans cette équipe-là, on ne sait même pas qui, pour l'instant, on enregistre quelques jours un peu avant la diffusion de cette pastille, mais pas sûr qu'au moment où vous écoutez ça, vous saurez le nom du titulaire. On ne sait pas encore qui sera le titulaire entre Baker Mayfield et Kyle Trask. C'est quand même pas hyper bon signe, surtout quand on sait que ces deux joueurs-là, même si on a vu un petit peu moins l'échantillon sur Kyle Trask, on sait que ces deux joueurs-là ne sont pas non plus incroyables, Victor.
Bah, Kyle Trask, il va pas falloir lui demander de courir, quoi, parce que c'est un peu une statue. C'est pas un mauvais lanceur, hein, mais c'est
Ça
par
changera
contre.
pas de Tom Brady, en tout cas.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
De
Moins
talent?
d'intelligence dans la poche. Mais bon. Non, je pense que ça sera quand même, en tout cas au début de saison, Baker Mayfield sur la réputation, sur le fait que malgré tout, Baker Mayfield a eu des bonnes saisons, enfin deux bonnes saisons. entrecoupé de haut et de bas, hein, ça c'est sûr, mais ça a quand même été un joueur qui a montré des choses à une autre époque. Mais par définition, c'est ultra inquiétant, comme disait, je crois que c'est Grégory, hein, qui disait que les échos du camp sont absolument catastrophiques actuellement sur Baker Mayfield. Bah, cette équipe, tu te demandes où est-ce qu'elle va aller, parce qu'en effet, Mayfield ou Trask, j'ai du mal à m'enflammer, il va falloir gagner les matchs 15 à 12, quoi.
Juste un autre petit facteur X, parce que globalement, je suis d'accord sur, en tout point avec vous sur cette question des quarterbacks-là qu'il va falloir rapidement élucider. Ça va être un peu mon cheval de bataille, hein, j'en ai parlé un petit peu avec Atlanta. Gros facteur X, c'était kicker quand même du côté de Tampa Bay. Hein. Parce que les deux kickers aujourd'hui, c'est Chase McLaughlin et Rodrigo Blankenship. Et je n'ai pas dans l'idée qu'ils soient réputés pour leur constance en NFL. Il y a quelques petits coups d'éclat ici et là, mais c'est quand même assez rare. Comme dirait Alain, quand tu as deux quarterbacks, tu n'as pas de quarterback. Bah, quand tu as deux kickers, tu n'as pas de kicker non plus. Donc là, on est vraiment sur des postes clés, à mon sens. Toute proportion gardée pour les deux postes cités, mais où ça peut en effet causer de grosses déconvenues aux Bucks.
Surtout si on parle d'une équipe qui va avoir du mal à conclure dans la red zone ou même en général. C'est vrai que les kickers seront importants. Le calendrier, messieurs, les Bucks qui vont démarrer à Minnesota face aux Vikings, qui vont ensuite recevoir les Bears, les Eagles, qui vont se déplacer du côté des Saints après une semaine de repos tôt dans la saison. Il y aura ensuite les réceptions des Lions, des Falcons, déplacement chez les Bills, les Texans, réception des Titans, déplacement à San Francisco face aux 49ers et ensuite face aux Colts, réception des Panthers, déplacement face aux Falcons et aux Packers, réception des Jaguars et des Saints, et on termine à Carolina face aux Panthers. Grégory, Victor surtout, je le dis avant que tu le dises, mais c'est vrai que la NFC Sud va croiser avec une division plutôt faible, donc on peut imaginer un pronostic un peu revu à la hausse par rapport à d'habitude. Mais messieurs, comment vous voyez cette saison des Buccaneers ?
Eh bien écoute, symboliquement, tu vois, ça va faire plaisir à Grégory. J'avais mis 8 à Atlanta et du coup, je mets 7 à Tampa Bay.
Ah. Voilà. Avec donc Atlanta devant Tampa Bay.
Bon, 8, ça ne me faisait pas voilà. Super plaisir, mais 7 pour Tampa.
Même si je pense que les Saints vont régler cette division à un moment, mais ouais, je n'arrive pas à aller plus haut. Il y a une défense qui fait que je n'aimais pas à 4 ou 5, mais cette incertitude au poste de quarterback, je ne peux pas les mettre plus haut.
Bah écoute, c'est le moment où je me fais plein de copains pour la saison à venir. Je vois une saison à 5-12 pour Tampa Bay.
Ah oui, si bas.
Parce qu'il y a plein de choses où je me dis, ils ont des super receveurs, mais s'il n'y a personne pour leur donner les ballons, ça va être un petit peu compliqué. Il y a une ligne, comme l'a dit Victor, qui, si elle régresse, ça peut aussi poser beaucoup de problèmes, surtout que les postes de quarterback et de running back, on en a parlé tout à l'heure. Même en défense, enfin, je parlais du backfield, mais la situation autour de Devin White, elle est quand même un petit peu particulière. Je sais pas, un joueur qui est sur une pente ascendante non plus. Et si Todd Bowles perd un petit peu le vestiaire, on n'est pas à l'abri d'avoir une fin de saison un peu compliquée. Donc voilà, faut choisir des équipes qui peuvent éventuellement être tributaires en conférence nationale. Je vois les Buccaneers. J'espère me tromper pour eux, hein, mais.
Dit-il.
C'est ça.
En effet, je ne serais pas allé jusqu'à 5. Pour ma part, messieurs, si vous êtes d'accord, moi j'avais 6-11. Victor, tu as parlé de 7. Grégory, tu as parlé de 5.
Très bien, 6.
On peut s'accorder sur 6.
Je vous laisse le 6-11 si vous voulez, les gars.
C'est cadeau. Non, mais pour défendre un petit peu, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Ce n'est pas forcément rassurant ce qui se passe du côté des Buccaneers. Mais en même temps, en effet, le calendrier que je vois ici, il n'est pas non plus famélique. Il y a des déplacements, il y a même des réceptions qui sont jouables. 5-6 victoires, Todd Bowles est un petit peu en difficulté, mais ça reste quand même un coach qui peut sortir, surtout s'il est en danger. Donc allez, 6-11, messieurs, si ça vous va, on peut rester sur ça. Et puis, je vais vous laisser aussi aller sur le site, puisque c'est ainsi que se termine cette pastille, pour voir la preview écrite par un autre rédacteur de Touchdown Actu. Quant à nous, on se retrouve dès demain, messieurs, on va parler d'une autre ancienne équipe de Tom Brady, on va parler des Patriots. Là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux de Touchdown Actu. On se dit à demain. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.